Ciao. Bonjour. Alors, on va donner la parole à mes camarades.
Ça ne marche pas.
Ça va, là ?
Non.
Plus fort, c'est bon, là. Donc, on va donner la parole à mes camarades d'un groupe. Moins fort. C'est bon, là ? Là, vous entendez ? Plus fort. Voilà. Là-haut, on dit que c'est bon. Et c'est là qu'on n'entend pas. Oh, c'est la technologie qui est
faite. Parler près de la bouche.
Bon, faut parler près de la bouche. Donc, les camarades du groupe, on a montré un plateforme qui vient de Russie. Pour que vous ayez une petite idée, c'est un groupe qui existait comme tendance d'un mouvement qu'on appelle le mouvement socialiste de Russie, dont ils se sont séparés, ce qui s'explique dans leur stand, il y a un an et demi, et ils se sont séparés essentiellement sur le fait qu'ils voulaient s'adresser à la classe ouvrière et chercher à rompre avec les habitudes des groupes d'extrême gauche russe qui, par certains côtés, ressemblent beaucoup à ce que nous pouvons connaître ici. Alors, la camarade qui va faire l'exposé introductif, elle va parler en français. Et après, quand on posera des questions ou des interventions, il y aura un petit temps de traduction parce que ce sera nécessaire. Voilà. Bon.
Bonjour camarades, je m'appelle Victoria, je suis de Perm, Russie, de рабочая платформа, платформа Лидер, c'est mes camarades Ольга et Сергей. Je voudrais vous présenter la situation de la classe ouvrière en Russie et mes camarades m'aideront à répondre à vos questions. La crise profonde qui a saisi les organisations d'extrême gauche après le placement à l'échelle mondiale du modèle économique keynésienne par le modèle néolibéral et après un fondement de l'Union soviétique a frappé de la façon la plus brutale les pays du tiers-monde et ceux de l'ex-bloc socialiste. L'industrie occupe une position à la périphérie du système actuel où, dans le meilleur des cas, éloigné de son centre. Combien ces pays n'ont jamais eu une production industrielle de type avancé. Ou bien, pour certains, et c'est le cas de la Russie, cette industrie a été presque complètement anéantie. À qui des réformes néolibérales ont été dues d'obéissance et de l'introduction graduelle du marché dans les domaines de la vie de la société. Parallèlement à la destruction de la production industrielle, pas objectif de l'auto-organisation du prolétariat, l'idéologie de marché a inculqué dans les consciences sociales une mentale d'individualisme extrême. Ce qui est lieu, rien en face pour faire pièce. Ce qui a aussi fortement passé dans le sens de l'éliminement de masse laborieuse. En tant que marxiste, nous considérons les travailleurs salariés au premier rang de ce que c'est employé dans la production et le transport comme la seule force capable d'ouvrir à la transformation socialiste de la société. Et précisément, on sait là que cette classe, d'une part, souffre plus de tout autre du capitalisme et d'autre part, concerne d'être ses mains toute la production des biens matériels. D'où il découle justement que les travailleurs salariés sont la force qui a la capacité et la possibilité de transformer la société dès lors qu'elle dispose de la propre organisation. La situation en Russie et dans les pays membres de la CEI, grosso modo, la plupart des ex-républiques soviétiques a saisi de particulière que durant la période stalinienne et les décennies qui l'ont suivi, toute expérience même Russie, qui en déroulait s'était formé avant les révolutions russes de 1905 et de 1917 et durant les premières années de pouvoir soviétique. Tout cela a été détruit systématiquement et volontairement. Dans ce cadre du pouvoir de la bureaucratie, on a mis dans l'esprit des travailleurs une façon de voir les choses. Tenant du paternalisme, les ouvriers avaient perdu la possibilité de peser sur le prix des décisions et ils devaient se résigner à ce que rien ne dépende d'eux. De la même façon, le lien avec les mouvements ouvriers internationaux a été effacé. Du coup, des générations de travailleurs soviétiques ne pouvaient se représenter concrètement ce que la lutte de la classe ouvrière, qu'elles sont les buts, et encore ne parlons pas de la démocratie ouvrière. Le résultat a dit qu'après la chute de l'Union soviétique, la classe des travailleurs s'est retrouvée dans une situation déplorable. Les ouvriers n'avaient aucune expérience de l'action collective et en tant que classe sociale, ils se trouvaient atomisés. Ces générations de travailleurs s'étaient habitués à considérer la chose suivante. Si, dans le monde capitaliste, leur camarade devait se battre pour défendre ce qu'il avait chez nous, ce qu'on avait, on vous l'avait fourni sans que vous ayez eu à lutter. Il n'avait pas fallu leur dire ce qu'on n'avait pas dépendu de ce qu'on ait activement participé à une lutte pour l'arracher. De ce fait, on regardait cela comme aller de soi et les travailleurs se considéraient pas comme pouvant agir sur les cours des événements. L'effondrement du système soviétique les a confrontés à une situation difficile, en les obligeant à s'élever contre ce qu'ils n'auraient pu imaginer encore peu de temps avant. L'arrêt de la production et le non-paiement de leurs salaires durant le mois. Leur protestation avait toutefois un caractère spontané. Elle se produisait de façon non organisée et bien de fois. Et elles ont finalement fait le jeu des actions d'entreprise. Car il était de leur intérêt de recevoir des fonds et des financements de l'État. En cause, les organismes que l'on a appelés syndicats étaient en réalité les instances étatiques que remplissant des fonctions d'organismes sociaux, dispensateurs d'aide diverses. Lorsque l'économie de marché a été introduite, les travailleurs n'avaient aucune idée des buts et des tâches des syndicats autres que ceux qu'ils connaissaient du fonctionnement des structures syndicales officielles qui, du temps où ils existaient, avaient accumulé des avoirs fantastiques et qui, dans les entreprises relayées auprès des travailleurs, les désidératas des directions. La vision paternaliste des choses que pendant des décennies l'on avait inculqué à des générations de travailleurs, c'est que ceux-ci ne voyaient pas ceux qui auraient pu prendre la place de telles structures. C'est fut aussi une des raisons pour lesquelles les travailleurs et nombre de militants sujets à leur rang accordé bien trop d'importance aux lois et au côté légal, de la façon de se faire attendre, c'est que avant le fond n'avait rien à voir avec le combat de la classe ouvrière. C'était également le résultat de ce que le nouveau syndicat indépendant qui était apparu au fin des années 1990, début des années 1990, reproduisait les formes d'activité des vieilles structures officielles. près du fait que en Russie, la sphère de la production ne pèse pas tant que cela au regard des revenus que procure l'exploitation des hydrocarbures. Et ces situations engendrent une dégradation de la sphère de la production en même temps qu'un recul de la force de travail employée à produire. Pendant des années, les flux d'argent abondants du groupe procurait l'exploitation des gaz et des pétrole a pu atteindre leur situation réelle aux yeux des travailleurs en faisant naître parmi eux un sentiment illusoire de stabilité et de sens. Par ailleurs, ce flot de devises ont permis d'utiliser les ressources et capacités industrielles créées du temps de l'URSS et qui l'on avait usé quelques fois en se dispensant de les intervenir et de faire des investissements. C'est ainsi que, depuis l'effondrement de l'URSS, le mouvement ouvrier russe est réduit à un état embryonnaire. Depuis 24 ans, les mouvements de protestation ouvrière qui se produisent ont, dans leur immense majorité, et un caractère défensif. C'est-à-dire que les travailleurs ne se battaient pas pour des nouveaux acquis, mais s'essayaient d'obtenir, après l'avoir longtemps accepté, comme leur rente, ce qu'on leur avait pris de façon intégrale. Et les syndicats indépendants apparurent un grand nombre sur tous les territoires, avaient repris en général la fonction de distributeur de services qui avait été celle de la Confédération soviétique du syndicat officiel. Dans ces conditions, on insista à un sort de croissance du mouvement ouvrier avant 2007. En pareille condition, notre tâche consiste à former les premières écoles d'action collective, ce qui ne peut se faire que sur les lieux de travail, là où se créent les richesses matérielles dont dépend la vie de toute la société. Actuellement, ces écoles peuvent être des syndicats indépendants d'un type nouveau qui ont l'auto-organisation comme principe de fonctionnement et l'action collective comme moyen de lutte pour les intérêts des travailleurs. C'est précisément et c'est dans de tels instruments que les militants de Rabotchaya Platforma ou Platforme Ouvrière projettent le développement de leur participation active dans ces organisations. D'une part, on dit agissait aussi bien en tant que travailleurs que comme organisateurs syndicaux, d'autre part, en agissant dans le du développement et de l'éducation des travailleurs du monde. Du temps de Lénine et de Plekhanov, c'est une façon semblable qui a agi le Parti ouvrier social-démocrate en Russie au début de sa formation quand il développait une activité dans les faits des types syndicales. Nous considérons l'action collective comme la plus efficace et comme celle qui ouvre le plus de perspectives de forme d'action syndicale. Cela suppose de mobiliser les ouvrières auprès qu'elles défendent eux-mêmes leur propre intérêt. C'est d'une certaine façon plus difficile et cela exige d'avoir à dire des habitudes d'action particulières sur le plan de l'agitation sur celui de l'organisation et aussi d'avoir beaucoup de patience. Mais c'est aussi que peut avoir le plus de résultats. Cette façon d'agir dans la pratique, on Nicolas Bois s'exprimait par exemple dans le film de Ken Loach, Bread and Roses, Le Pen et de Rose. Le but de cette activité, c'est de forcer les employeurs à discuter ce qui est le résultat de l'action collective et de les forcer à conclure des accords qui conviennent aux deux parties. Voici quelques exemples de ce type d'action en Russie. Le syndicat d'Uchitil ou l'enseignant et la direction d'école Moscovie privée intellectuelle ont signé un accord collectif dans le texte duquel sont développés les points suivants, par exemple la procédure de fixation de la charge de travail des enseignants, la réglementation de la durée de la présence des pédagogues à l'école, et etc. Autre exemple, Novokno, section syndicale d'usine Imanko, qui produit des glaces à Omsk et en Sibérie, et le management du Trust Unilever, Unilever propriétaire de l'entreprise, ont signé un accord clair qui établit l'obligation de négociation annuelle sur les salaires dans l'entreprise. Encore un exemple, un courtier. Les infirmières de l'hôpital municipal numéro 1 de la ville de Sarapul déclenchèrent en 2040 une grève dite italienne et ces jours plus tard, pour une section du syndicat de personnel soutenant l'initié ou l'action. Oui. Si c'est nécessaire, je peux expliquer que c'est un grève du zèle, un grève italien. Dans la région de Moscou, la section syndicale de MPRA, interrégional syndicat association ouvrière, en français des usines automobiles Autologica, a obtenu une série de succès. Autologistica, a obtenu une série de succès qui résultaient de la mobilisation du personnel. Le conflit s'est achevé alors qu'on était au stade des actions dans la rue. Et la direction savait que les ouvriers descendraient dans la rue s'ils le fallait. Il est particulièrement intéressant de noter l'activité de l'organisation syndicale MPRA en amont du territoire de Kaluga, un centre industriel à 200 km de Moscou. Tous les succès remportés concernent jusqu'à présent seulement l'usine Volkswagen, où le syndicat regroupe 42% des ouvriers de production. En juin, il a obtenu que les ouvriers puissent se rendre libres lors des matchs de la Coupe du Monde de foot, par exemple, et même il a pu organiser qu'on puisse regarder les matchs durant le temps de travail, qui a compensé un autre par la suite. Tout ce qu'a obtenu le syndicat à Volkswagen et le droit à des négociations. Maintenant, cette négociation, le syndicat a fait campagne en mobilisant les ouvriers du matinée à être diffusé dans le personnel pour l'informer de la situation en cours. Les militants syndicaux ont arpenté les ateliers pour y discuter avec les ouvriers. Volkswagen procède régulièrement à des enquêtes du genre baromètre de l'état esprit à l'usine pour comprendre ce que se passait au niveau de la production. Et c'est donc les ouvriers discutant dans les ateliers qu'en diverses occasions se sont montrés prêts à engager une action collective. Cela joue bien sûr un rôle dans les négociations. Des exemples que j'ai cités, il raisonne que si le syndicat met en lien, met en cours des actions collectives pour atteindre le but qu'il s'est fixé, il n'a pas d'autre moyen pour cela que d'arrêter dans ses rangs le plus grand nombre possible d'ouvriers en leur expliquant que le syndicat n'est pas un petit groupe de pur combattants qui résolvent tous les problèmes eux-mêmes, mais que c'est l'organisation des ouvriers eux-mêmes. C'est précisément alors que les syndiqués ne s'est impliqués dans la lutte pour leur propre intérêt et qu'ils ont alors la possibilité d'obtenir non pas simplement qu'on leur rende ce que l'employé leur offre, mais bien plus l'amélioration de leur conditions au travail. Aujourd'hui en Russie, on assiste à la naissance des luttes économiques victorieuses. C'est là peut-être le gage d'avenir du point de vue de la prise de conscience par le prolétariat de ses intérêts sociaux en tant que place et par voie de conséquence de ses intérêts politiques. Mais à notre avis, cela ne pourra se produire dans notre avenir proche. Merci beaucoup pour votre attention. Peut-être que vous avez des questions.
Et de la direction des entreprises. Donc je vais peut-être répéter, donc non, ce sont de nouvelles structures, parce que les anciens syndicats qui sont les syndicats officiels, d'après nous, il n'y a aucune manière de les modifier, puisque ce sont des syndicats officiels qui sont très proches des employeurs et de l'appareil d'État. De façon générale, ils ne méritent même pas le nom de syndicat, parce qu'un syndicat, il ne doit pas juste encaisser les cotisations. Les activistes doivent prendre partie active de l'activité syndicale. Et dans ces organisations officielles, souvent, ce n'est même pas par l'argent.
Oui, je voulais en profiter pour demander au Camadrou un petit peu ce qui est aujourd'hui effectivement la conscience de la classe ouvrière russe, et surtout, comme vous êtes quand même du pays où il y a eu la révolution russe, donc savoir un peu le ressenti des travailleurs vis-à-vis de ce qu'était le stalinisme et l'implication que ça a aujourd'hui sur leur mode de pensée, leur lutte quotidienne, etc. Quoi. Parce que ce sont des conditions différentes de ce que nous vivons ici même.
Инициативы рабочих были уничтожены, это было физическое уничтожение всех наиболее активных людей, тех, кто состоял в профсоюзах в 20-е годы и в любых рабочих организациях, всех уничтожили физически.
Excellente question, puisque à l'époque du stalinisme, cette tradition elle a été détruite, et j'entends par là également la destruction physique de tous ces militants qui étaient apparus dans les années 20.
Они привыкли уже к тому, что наверху за них уже все было, все решалось. Об этом как раз говорилось в нашем докладе. То есть люди уже привыкли к тому, что они не чувствовали себя частью какого-то исторического процесса, не чувствовали себя активными деятелями.
Donc toutes les traditions saines du mouvement ont disparu, et ça vient notamment du fait que les gens avaient pris l'habitude qu'on décide les choses à leur place d'en haut, et donc les gens dans les syndicats n'avaient plus l'impression de faire partie d'un mouvement historique de transformation de la société.
Те, кто получал высшее образование, но и рабочие были, они изучали в школах, в институтах, изучали основы марксизма. И это изучение, оно было очень формальным, потому что после развала Советского Союза произошли совершенно странные вещи. Люди... После развала Советского Союза все люди, которые изучали теорию марксизма, они все пошли в церковь. Они все свои деньги понесли в финансовые пирамиды. То есть это как раз поднимает такой вопрос, что же вообще происходило в Советском Союзе, какого качества было вот это изучение марксизма?
Donc à l'époque de Lius, c'est vrai que les gens apprenaient le marxisme, mais c'était un enseignement très formel, puisque à la fin de Lius, on a pu observer des phénomènes tout à fait étranges. Par exemple, tous ceux qui avaient appris les théories marxistes, on les voyait partir à l'église, ou alors constituer des pyramides financières. Nous pose la question, quelle était la qualité de l'enseignement de ces idées-là.
То есть вот эти традиции рабочей борьбы, они были утеряны полностью. И мы сейчас, как политические активисты и вместе с тем и профсоюзные активисты, мы стоим в начале очень тяжелого пути. То есть нам нужно начинать не то, что с нуля, нам нужно начинать с минуса.
Cette tradition de lutte a été complètement détruite, et que ce soit sur le plan du militantisme politique ou syndical, ce qui fait qu'en réalité on ne peut même pas dire qu'on reprend le travail de zéro, on peut même dire qu'on part même de plus loin que l'origine.
Oui, c'est un peu pour prolonger la question. Dans la réponse qui vient d'être faite à l'instant, on parle des syndicalistes et des politiques. Donc je suppose que c'est une allusion au Parti communiste. Et je voulais savoir si malgré tout, malgré ces restes énormes de stalinistes, il y a quand même des possibilités d'action commune, des vrais révolutionnaires, avec le Parti communiste russe, ou alors si sa seule particularité qui pourrait nous en rapprocher, c'est l'anti-impérialisme américain ou européen, mais c'est du nationalisme et c'est pas vraiment un terrain où on peut se retrouver. Donc je voulais savoir. Il y a des actions communes avec les communistes, indépendamment des questions syndicales, en dehors de l'entreprise, si les communistes, les gens du Parti communiste qui se disent communistes, ont quelque chose de progressiste, ou alors le seul aspect non négatif, c'est qu'ils s'opposent à l'impérialisme américain ou européen.
Merci pour cette question. Il faut préciser que le Parti communiste russe, ce n'est pas le cas du Parti communiste français. Le Parti communiste français, personnellement moi, et je crois que mes camarades aussi, nous sommes critiques par rapport à la politique du PC français, mais au moins il faudrait reconnaître que c'est le parti politique de gauche, c'est vrai, c'est réformiste électoral, mais c'est le parti politique de gauche au moins, et ils essaient de prononcer les idéaux de la gauche. Le Parti communiste russe, après le début des années 2000, ce n'est plus parti de gauche proprement dit. Il faut préciser une chose très importante. Dès le début des années 90 et jusqu'à la fin de cette époque des années 90, le mouvement de contestation qui protestait contre la politique néolibérale, contre la politique réactionnaire de Yeltsin, c'était le mouvement qui a réuni plusieurs strates, pas seulement les ouvriers, pas seulement les couches progressives de la société, pas seulement les petits intellectuels de gauche, mais aussi les anciens bureaucrates, une, par- parti de la bureaucratie, il n'est pas intéressé à une transformation de l'ordre social de l'Union soviétique en capitalisme pur avec toutes les institutions classiques du capitalisme. Poutine a réussi tout simplement d'attirer cette partie de la bureaucratie. Il faut être très attentif. La bureaucratie, c'est quelque chose de très spécifique. Bon, voilà. Cette fraction de la bureaucratie qui était avant à la tête du mouvement contestataire. Ce qui a manqué à ce mouvement, c'est la position de classe, le point de vue de classe, l'analyse de classe et l'organisation de classe. C'était l'opposition un peu nostalgique qui a essayé de rétablir l'Union soviétique telle qu'il était avant. Voilà, et c'est tout. Et c'est pourquoi ce mouvement a toléré les gens comme Douleïev, comme Zyuganov à la tête. Et par exemple, Douleïev, qui était gouverneur de la région de Kemerovo, il est devenu, après le début de l'époque de Poutine, un des bureaucrates intégrés dans le parti de pouvoir, dans le parti au pouvoir en Russie actuelle. Voilà, dans la Russie, voilà, c'est ça. Ils ont quitté le KPRF, Parti communiste russe, et ils ont devenu et comme ça, ils ont appris certains mots d'ordre du régime politique de Poutine, du régime néolibéral. Ils ont accepté l'entrée des capitaux étrangers dans leur région, contrôlée, réduite, mais quand même, ils ont accordé ça. Et donc, ils ont trahi ce moment de contestation des années 80. Et maintenant, ils partagent tous les mots d'ordre plus réactionnaires du régime de Poutine, même les mots d'ordre racistes et xénophobes, anti-immigrés. Par exemple, pendant les élections à Moscou, les élections de maire de Moscou, ils utilisaient les slogans du type les immigrés hors de Moscou. Ils ont partagé tous ces mots d'ordre avec les autres partis politiques qui participaient dans ces élections, avec les partis bourgeois. Donc, on ne peut pas dire même que c'est le parti de gauche. Franchement, c'est le parti conservatif de droite qui est nationaliste, chauviniste, qui vote toujours avec Poutine. Et tous les tentatives des groupes de gauche de négocier les manifestations communes de 1er mai, nous avons eu des exemples cette année, comment les communistes, entre guillemets, en Russie, les représentants du parti communiste russe, comment ils ont trahi ces gauchistes naïfs qui espéraient que la contestation sociale va rencontrer la compréhension, l'accueil assez chaleureux de part de ces russes, entre guillemets. Merci.
Я хочу просто сразу прямо ответить на этот вопрос. К сожалению, никак. Вообще никак. Потому что коммунистическая партия Российской Федерации, они эксплуатируют очень простую человеческую особенность. Такая особенность, что человек всегда хочет, чтобы он ничего не делал, но всегда кто-то что-то пришел и сделал для него что-то хорошее. КПРФ как раз такой именно подход и предлагает. Мы придем, выберите нас, а мы придем и все сделаем вам хорошо. Вам ничего не надо будет сделать, только нас выбрать. К сожалению, сейчас у нас в России появляются очень много клонов КПРФ, которые, знаете, действуют тоже на том же принципе.
Alors, je crois que je vais être clair et répondre franchement à la question. On ne peut pas du tout, d'aucune façon, travailler avec ces militants, puisque le Parti communiste russe, il exploite une particularité humaine, c'est le fait permettent d'utiliser la corde, de dire aux gens ne faites rien, soyez passifs, on va faire les choses à votre place. Et même aujourd'hui, en réalité, on peut voir même d'autres clones de ces partis qui exploitent la même fibre.
Еще огромная сложность состоит в том, что нам нужно возвратить слово «коммунист» его хорошее значение. Потому что люди, слыша слово «коммунист», представляют себе таких персонажей вроде Зюганова и прочих деятелей. И ничего хорошего в этом не видят. Вот. В этом тоже состоит наша задача на рабочей платформе.
Et d'ailleurs, ça pose pour nous un problème tout simple, c'est que le simple mot communisme, devient difficile à défendre en face quand il y a des gens comme Zyuganov qui ont galvaudé ces idées-là. Et pour nous, ça devient même un combat, un enjeu prioritaire simplement de revenir à ce qu'est le communisme. Voilà.
Oui, merci pour l'exposé tout à l'heure. Moi j'avais deux questions, plus sur la période récente. J'ai entendu qu'il y avait quand même quelques grèves relatives, il y a fait référence tout à l'heure, notamment dans l'automobile, dans la région de Saint-Pétersbourg, mais à Moscou aussi, à Kaluga, etc. Et d'autres secteurs, dans les hôpitaux, dans l'éducation aussi, sur des questions de salaires non payés, qui apparemment sont un peu les enjeux qui reviennent en ce moment en Russie, quoi. Bon, un peu comme après la crise de l'automobile. Mais la question c'est, est-ce que l'une de ces grèves parvient un peu à attirer l'attention, pas seulement des médias, mais aussi des autres travailleurs. Il y a eu les travailleurs du cosmodrome, du nouveau cosmodrome, apparemment, qui ont réussi à se faire un petit peu entendre, mais est-ce qu'il y en a d'autres qui apparaîtraient un peu comme une locomotive, mais un point de référence quoi, pour les luttes des travailleurs quoi. Une autre question, plus par rapport à l'Ukraine et aux conséquences de la guerre en Ukraine et de l'invasion de la Crimée. Quel est l'effet aussi de la propagande nationaliste et patriotique quand même, très très forte de Poutine et de son gouvernement sur les travailleurs et aussi sur les mobilisations des travailleurs quoi. Est-ce que ça fait partie un peu du ras-le-bol ou est-ce que ça marche un petit peu quand même le truc nationaliste, il faut se serrer la ceinture
Вот я надеюсь, что я поняла вопрос правильно. Да, действительно, была такая забастовка, которая очень сильно повлияла на развитие профсоюзного движения, вообще рабочего движения в России. Это забастовка 2007 года на автомобильном заводе Ford в Санкт-Петербурге.
Première question, donc j'espère avoir bien compris la question. Donc oui, il y a bien une grève qui apparaît un peu comme le moteur de ce mouvement. C'est la grève de 2007 aux usines Ford, non loin de Saint-Pétersbourg.
В результате вот этой забастовки и появился профсоюз независимый, профсоюз работников автомобильной промышленности, который потом стал именно благодаря освещению в СМИ, вот эта забастовка получила огромный резонанс, и именно вот этому в разных городах России стали появляться независимые профсоюзы.
Et c'est dans le contexte de cette grève donc de 2007 que le syndicat MPRA, donc syndicat indépendant de l'automobile, est apparu. Et c'est notamment grâce à l'écho dans les médias qu'on a connu un peu cette grève. Et d'ailleurs, on a vu apparaître donc ce syndicat dans d'autres villes.
Дело в том, что большинство забастовок в России, по сути, своей не являются забастовками. Потому что Когда люди прекращают работу из-за того, что им не платят деньги, это не забастовка. Забастовка на Форде – это был первый пример того, что люди организовались и провели коллективные действия для того, чтобы им повысили зарплату. И эта забастовка, несмотря на то, что она судом была признана незаконной, она была победоносной. В результате нее руководство полностью пошло на уступки работы.
Alors, d'abord, je voudrais rappeler que quand même, quand les travailleurs ne travaillent pas parce qu'ils ne reçoivent plus de salaire, c'est même pas une grève. Mais par contre, quand des travailleurs conscients s'organisent pour défendre l'augmentation de leur salaire, là, c'est une grève. C'est ce qui s'est passé à Ford. Effectivement, la direction a été obligée de reculer. Et donc, c'est une grève victorieuse.
Мы организовали профсоюз «Интра» в Калуге на заводе «Peugeot Citroën», «Volkswagen». Сейчас меньше, чем год назад появилась организация на заводе «Peugeot Citroën». В 2012 году мы организовали забастовку на заводе «Интервер», которая тоже была успешной. И мало того, она была законной.
J'avais oublié de préciser donc que la grève de Ford le gouvernement avait combattu sa grève en la taxant d'illégalité. Alors on a fondé à Kaluga une PSA, une section du syndicat FPA, et en 2012 il y a eu une grève à l'usine Benteller et à Volkswagen qui a été une grève victorieuse.
По поводу распространения информации и СМИ я могу сказать, что распространение каких-либо сведений о забастовках, о рабочих протестах в России официальных СМИ считается нежелательным. И слово «ФРА», название нашего профсоюза, попало во все стоп-листы, слов, которые нельзя употреблять в эфире или печатать.
Enfin, ceci dit, il faut rappeler à propos des médias que quand même ils n'aiment pas trop parler de ça à la télé, on ne peut pas trop compter sur eux. Et par exemple, le nom de notre syndicat, NPRA, est tombé dans la liste des noms qui sont interdits d'utilisation dans la presse, à la télé.
Калуге на областном уровне это особенно заметно. Руководство области губернатор ведет пропаганду против нашего профсоюза, однако нам удалось переломить ситуацию в нашу сторону, и у нас нет проблем с информированием и работников, также еще благодаря тому, что у нас поставленная в профсоюзе информационная политика, нам удалось ее развить. Также черпаем информацию из источников, из иностранных источников, на информационных ресурсах братских профсоюзов Германии, Франции, США. И, в общем, это был тяжелый бой, но, в общем, я думаю, что мы его выиграли. Нам удалось сломать заслон, который поставили нам.
Et donc cette politique du gouvernement contre le syndicat, elle est particulièrement visible dans la région, où par exemple le gouverneur de la région de Kaluga mène une lutte acharnée contre notre syndicat. Ah oui, mais on a réussi à renverser la situation parce qu'on on mène nous-mêmes notre propre politique d'information auprès des travailleurs. Qu'on a réussi à développer. D'ailleurs, on utilise la presse, enfin les désinformations qui nous viennent de syndicats frères en Allemagne, en France, aux États-Unis.
Вот. Что касается по поводу ситуации на Украине, дело в том, что большинство рабочих на заводе – это обычные люди, которые смотрят телевизор. И, конечно, они попадают под действие пропаганды, которая сейчас все больше и больше набирает обороты. Это националистическая пропаганда.
Donc la plupart des gens qui sont autour de nous à l'usine, c'est quand même des gens qui simplement regardent la télévision et qui sont sous l'influence de la propagande gouvernementale, donc c'est-à-dire la propagande nationaliste.
Руководство нашего профсоюза придерживается левых позиций, и когда произошла аннексия Крыма, руководитель нашего профсоюза выступил на митинге в поддержку
Donc effectivement, bien sûr notre syndicat lui au contraire il défend des positions de gauche, d'extrême gauche, certains si on doit traduire. Par exemple, au moment de l'annexion de la Crimée, on a organisé un meeting contre la politique impérialiste de la Russie.
И когда видео с обращением нашего председателя попало в сеть, очень многие члены профсоюза вышли из профсоюза, потому что им такая позиция очень не понравилась. У нас в колонке были с этим проблемы.
Et quand la vidéo donc, de cette intervention est arrivée sur les réseaux, beaucoup de membres de notre organisation l'ont quittée parce qu'elle ne leur plaisait pas.
Однако мы не сдаемся и все равно продолжаем разговаривать с людьми и пытаемся объяснить им, что ситуация намного глубже, чем они видят с точки зрения пропаганды по телевизору.
Mais nous ne baissons pas les bras et nous continuons ce combat, essayons d'expliquer que la situation est beaucoup plus profonde que ce que nous voyons à la télévision. Mais c'est compliqué.
Et on sait bien que sait bien que les copains qui militent à Haïti, les copains qui militent aux États-Unis, les copains qui militent un peu partout, la conscience de la classe ouvrière est complètement différente, les situations sont complètement différentes. Je rappelle qu'à Haïti, même un des boulots des communistes révolutionnaires, c'était d'apprendre aux gens dans les camps qu'il y a eu après les inondations, après les séismes, les conditions d'hygiène plus élémentaires. Mais tout ça, on dit qu'on le fait parce qu'on est communiste, révolutionnaire, trotskiste. Et en fait, ces boulots, ce travail syndical difficile qui vont face à la répression, etc., on peut le faire aussi en disant qu'on le fait et qu'on peut le faire que parce qu'on est communiste révolutionnaire. Et que ça ne dépend pas du niveau de conscience. C'est des choix politiques. On peut ne pas être d'accord, mais ça ne nous empêche pas d'être complètement solidaire de ce qu'essayent de faire les camarades qui s'adressent à la classe ouvrière dans différents coins, et c'est pas facile. Voilà.
Pas une question.
Merci à Lutte Ouvrière de nous avoir invités. Je rappelle que notre stand est juste à côté, donc on peut...